Merci pour l'accueil. Voilà, j'étais déjà avec vous lors de l'étude biblique cette semaine. C'était intéressant de vivre déjà ces moments. Et on est là depuis vendredi. J'ai eu l'occasion aussi de visiter différentes personnes, mais notamment Jacqueline Siegenthaler qui est à l'hôpital. Donc pensons aussi les uns les autres, si on sait que quelqu'un est malade, hospitalisé ou autre. Prions aussi les uns pour les autres. Voilà, je vais prendre un texte que vous avez lu il y a quelques jours en arrière dans les Philippiens. Et pour ceux qui suivent le plan de lecture, donc Philippe va prendre les Philippiens, c'est facile. Hein. Voilà. Alors la lettre de Paul aux Philippiens est particulière comme toutes ses lettres. C'est des lettres, l'oublions pas, qui étaient écrites. Comme si on écrivait un mail aujourd'hui ou autre, là c'était une lettre. Ça prenait juste un petit peu plus de temps qu'un mail pour arriver au destinataire, mais c'était des lettres que Paul écrivait à des gens qu'il connaissait, des églises qu'il connaissait, des personnes, et qui aujourd'hui nous est aussi adressée parce qu'elle a encore valeur pour nous aujourd'hui, parce qu'elle est la parole de Dieu, bien évidemment. Et quand on la compare aux autres lettres de Paul, on voit quand même une différence. Dans les Romains, les Galates ou les Corinthiens, il y a des débats, des corrections, parfois même des reproches assez durs qui sont faits dans tous les destinataires. Il leur montre les chaussettes, dit autrement, il leur dit toujours avec beaucoup d'amour, mais quand même avec une fermeté assez grande, aux Corinthiens ou autres, il y a ces débats. Mais dans les Philippiens, non, ici, on sent autre chose, on sent de la tendresse, de l'amitié, de l'amour. Il n'y a pas vraiment de reproches qui sont formulés. Et il y a aussi un démarrage de cette lettre qui est aussi différente. Souvent, Paul, dans toutes ses lettres, il affirme son apostolat. Il dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ, non par la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu, tout ça. Par contre, là, c'est tout différent. Dans Philippiens 1, verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui sont par leur union à Jésus-Christ sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Là, il dit qu'ils sont serviteurs, finalement. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Dans les autres lettres, ils s'affirment comme apôtres. Apôtres, non par la volonté des hommes. Et on voit tout de suite que dans les autres lettres, son autorité était contestée. Alors, de tout temps, dès qu'on a une autorité, qu'on soit politicien ou autre, l'autorité va toujours être contestée. Et dans la Bible, il y a rien de nouveau, c'est pareil aussi. Il devait dire, c'est Dieu qui l'a appelé, on connaît tous l'appel de Paul. Mais là, la relation est différente avec cette église de Philippe. Il se présente comme étant le serviteur. Et il n'a pas besoin d'affirmer qui il est finalement, parce que son autorité était reconnue. Alors il y a quand même une différence, je dirais, dans sa façon de s'adresser à ses interlocuteurs. L'église de Philippe, c'était une église très spéciale dans le cœur de Paul. Peut-être, probablement, parce que c'était la première église fondée en Europe, à Philippe, en Macédoine, vers l'an 50, après Jésus-Christ. Et c'est là que Paul et Silas ont été emprisonnés, injustement. Mais on peut se souvenir aussi de ce texte qu'on trouve dans Actes 16, versets 10 à 40. On ne va pas les lire parce que ce n'est pas le sujet de mon message ce matin. On se souvient que Paul et Silas, qui avaient été quand même battus, qui avaient été enfermés, on avait mis les fers aux pieds, ils étaient vraiment attachés, ligotés, et ça ne devait pas être très, très, très sympa. On voit après, lorsqu'ils ont été libérés, qu'on a dû soigner leurs plaies. Mais là, à minuit, ils chantaient les louanges, comme on vient de le faire. Et franchement, dans ces situations-là, peut-être qu'on serait à se lamenter, en train de se dire, on va peut-être se faire décapiter après par, par l'empereur, par les Romains et autres. Mais là, rien du tout, ils chantent les louanges. Tu te dis, ils sont à l'ouest, ils ont bu quoi? Je ne sais pas. Ils étaient heureux et ils chantaient les louanges du Seigneur. Et parce que finalement, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça nous a été rappelé ce matin que peut-être qu'un jour on n'aura plus la parole de Dieu, mais il y a cette parole de Dieu aussi qui se rappelle à nous, qui nous enseigne, et aussi le Saint-Esprit, eh bien, qui nous donne de pouvoir réagir différemment que le monde. De pouvoir, nous, on serait au fond du bac, comme on dit, on se lamenterait, on dirait, mais puis les coups qu'ils ont reçus, c'était quand même assez violent. Mais là, ils chantent les louanges. Et là, tout à coup, tremblement de terre, badaboum, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Déjà là, c'est déjà un gros miracle. Hein. Je sais pas, imaginez un tremblement de terre, le bâtiment il tient, il y a juste les portes qui s'ouvrent, les chaînes qui tombent. Donc, il y a quand même quelque chose de spécial dans cette histoire. Relisez-la, c'est assez particulier. Et résultat, il y a le geôlier et toute sa famille qui se sont convertis. Lui, quand il s'imaginait que tous les prisonniers étaient partis, qui se serait passé normalement, les portes qui s'ouvrent, tout le monde part. Et là, ils disent non, fais-toi pas de mal, parce que quand le geôlier laissait partir les prisonniers, eh bien, il se faisait tuer par ses responsables, parce qu'il avait mal fait son job. Mais là, il dit non, fais-toi pas de mal, on est tous là. Donc là encore, un autre miracle, et ça va pousser toute cette famille du geôlier à la conversion. Donc, dès le début, les Philippiens ont montré un attachement particulier à l'apôtre Paul. Ils l'ont soutenu même financièrement. En lisant la lettre, vous avez peut-être vu ça. Et quand ils étaient en prison à Rome, ils ont aussi envoyé l'un des l'autre, Épaphrodite, pour l'encourager et lui apporter des dons pour soutenir, subvenir aussi à ses besoins en prison. Quelle fidélité! Ce n'était pas à prison où tout était... payé, nourri, logé, blanchi, hein, c'était pas ça. Non, si t'avais rien, t'avais pas des amis qui prenaient soin de toi, eh bien, il y avait de fortes chances que tu meures de faim. Non seulement d'emprisonnement, mais aussi de faim. Alors imaginez Paul enfermé à Rome, probablement vers l'an 63, après Jésus-Christ, il va écrire cette lettre, pas une lettre de plainte, pas une lettre d'amertume, mais une lettre de joie, une lettre de confiance. Il a confiance en son Dieu, une lettre d'espérance et en même temps une lettre pleine d'amour pour cette Église, remplie d'amour, qui avait su rester fidèle. Et depuis toujours, les chrétiens ont reconnu cette lettre comme venant vraiment de l'apôtre Paul. Déjà, les premiers pères de l'Église, comme Polycarpe de Smyrne, c'est Izmir en Turquie aujourd'hui, vers 70 à 155, il a vécu, ou Ignace d'Antioche en Syrie, la cité. Donc c'est une lettre qui est connue et reconnue la chrétienté depuis très très longtemps. Et quand on la lit, eh bien, on entend tout de suite le cœur de Paul battre à travers ses mots. Son cœur battait. Il avait un amour sincère et profond pour cette Église. Et le titre de mon message, ou le thème de mon message, c'est « En avant ». Le but à atteindre, en avant. Regardez en avant. Combien de fois on regarde en arrière, on est alourdi par... le bon vieux temps, où on idéalise ce bon vieux temps, on ne se souvient pas qu'il était parfois pas si bon que ça, mais ou alors le dur vieux temps aussi, tout ce qu'on a subi. Et c'est vrai, on est aujourd'hui le 14 septembre, c'est pas un scoop, l'année a déjà bien avancé, mais je crois que Dieu veut nous parler d'une nouvelle saison. Ce n'est pas parce qu'on serait nouvel an aujourd'hui ou j'en sais rien quoi. Dieu veut nous parler chaque jour comme d'un nouveau départ, comme quelque chose de neuf. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu peut nous accorder aujourd'hui? Ou c'est juste du réchauffé? Une nouvelle dynamique. Je ne sais pas où chacun vous en êtes aujourd'hui. Peut-être certains sont fatigués, peut-être certains sont découragés, peut-être certains sont satisfaits, je l'espère, heureux, heureuses. D'autres désabusés, d'autres se disent, ouais, à quoi bon finalement? À quoi bon tout ça? À quoi bon même venir à l'église? À quoi bon prier? Ça fait tant et tant d'années que je prie pour tel ou tel sujet. Pourquoi finalement? Pourquoi persévérer? Mais je crois que j'ai une parole pour chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est peut-être prétentieux, mais tout simplement parce que je crois que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Ce n'est pas mes mots, mais c'est la parole de Dieu, cette parole qui a été mise aussi à l'honneur dans ce début du culte, avec aussi l'armure du chrétien et toutes ces choses, cette parole qui est vitale finalement, qui est la source de notre vie. Et ce message aussi qui nous invite à ne pas regarder en arrière, à pas s'arrêter, mais d'avancer. Si vous faites une course, quelle qu'elle soit, si vous êtes tout le temps en train de regarder en arrière, il y a de fortes chances que vous vous encoubliez et vous vous retrouviez à faire un vol plané par terre. C'est difficile de tout le temps regarder en arrière. C'est difficile d'avancer, c'est difficile de courir. Et parfois, eh bien, on a tendance naturellement aussi dans notre marche eh bien, de regarder en arrière et de finir comme des caliméros, finalement, de dire « mais qu'est-ce que j'ai une vie difficile quand même ? Qu'est-ce que c'était compliqué ?» Aujourd'hui, je peux dire, je disais avec ironie à quelqu'un il n'y a pas longtemps, je dis « oui, mais j'ai une résistance à la douleur qui est largement au-dessus de la moyenne. » On dit que les hommes, des fois, dès qu'ils ont un rhume, ils croient qu'ils vont mourir, mais ce n'est pas mon cas. Je dis tout simplement, oui, je dis, j'ai suffisamment été tabassé quand j'étais petit pour être résistant maintenant à la douleur. Donc, voilà, ça aide à certaines choses aussi. Mais on pourrait regarder ça et puis finalement se lamenter. Se lamenter, dire, ah, mais qu'est-ce que c'était dur. Et puis regarder, ah, mais qu'est-ce que j'ai été trahi aussi par telle ou telle personne. Qu'est-ce que, voilà, mes parents, mes frères, mes sœurs ou le prof, un tel, j'ai toujours été maltraité, ou comment on dirait, on disait maintenant, je ne sais pas si on ose encore le dire, mais j'étais le mouton noir à l'école, ou j'en sais rien. Enfin, toutes ces choses qu'on pourrait dire, et puis ça alourdit notre marche. Mais dis à ton voisin, en avant, ce matin, en avant, choisis de regarder en avant. Ah, je veux vous entendre, en avant, dites-lui avec conviction, va, regarde en avant, va de l'avant. On va lire le texte de Philippiens 3, 1 à 14. Philippiens 3, 1 à 14, et après je vais poursuivre, dire quelques mots sur ce texte, mais il est déjà tellement parlant par lui-même. Philippiens 3, 1 à 14. « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais circoncis, faites attention aux faux circoncis. Alors, juste une parenthèse, quand Paul dit « faites attention aux chiens », il ne parle pas des canidés, enfin, il ne parle pas des... Quand il parlait des chiens, c'était tous ceux qui n'étaient pas juifs, finalement. Les chiens, c'était les païens. C'était ceux qui étaient incroyants. Donc, faites attention aux chiens. Et là, en fait, il utilise ce terme que les Juifs connaissaient parfaitement pour l'appliquer aux faux circoncis, aux faux croyants, c'est-à-dire aux pharisiens et aux religieux. Donc, c'était assez quand même trash. Faites attention. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église, c'est pas mal, hein ? Voilà. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Je ne sais pas s'il y a déjà le site internet jmelapète.com, mais c'est quand même, il avait une haute estime sur son pédigré. Verset 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Alors, ordures, on pourrait le traduire, ils sont quand même pudiques dans la Bible. En fait, on pourrait le traduire par excréments ou un autre mot qui vous vient à la tête. Enfin, voilà, c'est... Donc, c'est... Voilà, ils ont un petit peu rendu ça conforme. Il dit, tout ça, je considère comme une perte, comme des ordures. Et j'en suis à quel verset, là, d'ailleurs ? Hein ? Verset 8, magnifique, vous suivez, moi pas. Et je considère tout, voilà. Verset 9, tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Waouh ! Verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi-même aussi Jésus-Christ s'est emparé. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant. Quand vous faites une course, eh bien, en fait, c'est ça. On se dit, ben chouette, tout ce qui est déjà passé, mais je ne vais pas regarder sans arrêt ceux qui suivent. Imaginez une course de vélo ou j'en sais rien, course à pied, un X-Trail, enfin, toutes ces choses. Imaginez regarder tout le temps derrière, tu vas t'encoubler et il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à l'arrivée parce que tu vas finir sur le nez. Et Paul dit que même s'il avait beaucoup de raisons d'être fier de lui dans ce texte, il considère tout ça comme sans valeur par rapport au fait de connaître Jésus-Christ. Sans valeur. Il veut vivre par la foi, avancer avec lui et courir vers le but que Dieu lui a préparé sans rester bloqué par le passé, mes amis. Paul dit, je laisse le passé derrière moi et je cours vers Jésus, le vrai but de ma vie. Ça va, on pourrait voir une ligne d'arrivée et puis se dire, on va aller à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. En principe, c'est ce qu'on fait. C'est ce que je faisais quand je faisais des courses à ski dans un lointain passé. C'était très rare qu'on s'arrête juste avant la ligne d'arrivée pour garder ceux qui vont suivre. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé à moi. Mais à part si on finissait sur le nez. Mais ça, c'est autre chose. Je fais une seule chose, verset 13. Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Ce n'est pas juste j'essaye, mais il y a toute son énergie, tout son focus. Il n'a plus d'énergie pour garder derrière. Mais toute son énergie est devant, vers Jésus. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix, attaché à l'appel. Quelle déclaration de foi ! Paul ne dit pas « j'ai déjà atteint le but ». Quand même maintenant, j'ai quand même un niveau spirituel, je suis pasteur, c'est bon, maintenant les autres ils peuvent avancer. Non, il ne dit pas « je me repose » et il dit « je cours, j'ai envie d'aller dans cette direction-là, j'ai un focus, un objectif ». Le but de Paul avait un objectif clair, son but c'était pas d'avoir du confort, ni une belle réputation, ni même une belle carrière, ni d'avoir plein de likes sur YouTube, Internet, Facebook ou ce que tu veux, TikTok. Non, son but c'était de connaître Christ, verset 10. Expérimenter la puissance de sa résurrection. Être transformé à son image, c'est ça son but. Et pourtant, il a quand même écrit 13 livres du Nouveau Testament. Sur 27, c'est quand même pas mal. Il aurait pu dire, le but, je l'ai atteint. maintenant j'essaye d'encourager les autres à atteindre le but. Non. Il dit, je continue. Et un athlète olympique ne vit pas au hasard chaque repas, chaque entraînement, chaque nuit de sommeil a un objectif, la victoire. En résumé, discipline, constance et équilibre. Il semblerait que les athlètes olympiques doivent dormir suffisamment entre 7 et 9 heures par nuit, avoir des heures régulières de coucher et de lever. Leur peau permet la récupération des muscles, éviter des blessures aussi. J'ai trouvé ça, j'ai regardé les programmes d'entraînement. Enfin, des fois, il se passe des trucs quand tu prépares une prédication, tu cherches des infos. Enfin, c'est intéressant. Ou pas. Suivre l'entraînement, c'est suivre un programme aussi progressif, augmenter peu à peu les distances, alterner endurance, vitesse, enfin, repos actif. Ensuite, il y a des repas, l'alimentation. Fini le McDo. Être constant, mieux vaut s'entraîner aussi régulièrement que trop d'un coup. Toutes ces choses. Paul était comme cet athlète. Après avoir fait la liste de tout ce qu'il était, tous ses privilèges, il va dire, pour rappel, j'ai été circoncis l'huitième jour. Donc il rappelle son pédigré. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, le top du top, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Ça faisait bon sur le CV à l'époque. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Incroyable. Incroyable. Paul vivait avec le regard tourné vers le ciel. Encore sur la terre, mais déjà le focus au bon endroit. Le regard vers l'objectif. Est-ce qu'on a le focus au bon endroit? C'est une question, hein? Alors, le but de Paul, voilà, on le voit un petit peu dans ce texte. Deuxième chose, on voit aussi la course. La course chrétienne. Paul dit, je poursuis ma course. Je ne suis pas encore arrivé. La vie chrétienne, c'est une course, ce n'est pas juste une balade du dimanche après-midi. Un marathonien ne s'arrête pas au 20e kilomètre en disant « c'est déjà pas mal ». La prochaine fois, je ferai un petit peu plus. Non, il continue jusqu'au bout. Il a envie, en principe, d'aller jusqu'au bout. Autrement, il ne s'inscrit pas à une course. Il fait autre chose. Il fait du ping-pong. De même, celui qui veut remporter le prix doit aller jusqu'au bout avec Christ. Il ne suffit pas de bien commencer, mais il faut encore bien terminer. Oublier ce qui est derrière. Il a laissé tomber ses réussites, ses titres, ses erreurs, ses échecs, ses persécutions. Imaginez, comme je l'ai dit, quelqu'un qui regarde sans arrêt en arrière, un coureur. Je ne sais pas si vous regardez des fois les Jeux Olympiques ou d'autres trucs. Ce n'est pas possible. Tendre, j'oublie ce qui est derrière. On ne peut pas refaire le passé. On peut juste regarder devant. Tendre vers ce qui est devant. Paul ne dit pas, je verrai bien où ça me mène. Non, il se donne à fond. Il tend toutes ses forces vers l'avant. Et au JO ou dans n'importe quelle course, les coureurs donnent tout jusqu'à la ligne d'arrivée. Tout. Tout ce qu'ils peuvent, ils vont s'arracher même jusqu'à la ligne d'arrivée. Des fois, tu vois qu'ils ont couru je ne sais pas combien de kills ou même à vélo et tu les vois juste à la fin, ils sont encore à fond, encore bien plus forts que dans tout le parcours. Parce que c'est là que va se décider des fois la victoire. Parce qu'ils ont les yeux fixés vers le podium, vers quelque chose de très humain, très, très glorieux humainement parlant. Mais nous, est-ce qu'on a conscience qu'il y a quelque chose de... Notre podium, il a bien plus de valeur. Et notre podium, il n'y aura pas le premier, le deuxième, le troisième. Non, tous ceux qui arrivent au bout, ils seront sur le podium. Tous ceux qui arrivent au bout, parce qu'ils ont les yeux sur le podium. Regardez cette couronne de gloire. Troisième chose, c'est un petit peu comme dans les petits textes, si vous lisez les petits résumés que je mets... Là, dans le drive, c'est « Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en retirer pour moi aujourd'hui de ce texte, de ce que je viens de dire ?» Certains chrétiens disent « Tout est grâce, inutile de courir. » C'est juste, tout est grâce. Mais la grâce, ce n'est pas une excuse pour l'inaction. La grâce, ce n'est pas une excuse. Imaginez un voilier, le vent souffle, mais s'il déploie pas, si celui qui est sur le voilier ne déploie pas les voiles, le voilier, il y a de fortes chances, à part avec la marée et les courants, il y a de fortes chances eh bien, qu'il ne va pas beaucoup avancer. Il ne bougera pas. Et la grâce, eh bien, c'est un peu le vent de Dieu qui souffle, qui est là. Mais c'est à toi de lever ta voile, à toi de choisir d'avancer, à toi de vouloir, parce que Dieu ne va jamais nous forcer. Dieu ne va jamais nous forcer à faire quoi que ce soit à l'insu de notre volonté. Il n'a pas fait de nous des marionnettes. Il y a le vent, il y a la grâce, il y a le souffle de Dieu, il y a la parole de Dieu. Mais si on n'ouvre pas les voiles, si on ne se met pas en route, rien ne va se passer. Parce que Dieu a fait des fils et des filles, mais pas des marionnettes, où tout à coup il tire une ficelle, puis non, ça ne serait plus de l'amour, ça. Il n'a pas fait des robots. Il n'a pas juste mis une puce électronique dans notre cerveau qui fait qu'on va aimer Dieu sans choix ou qu'on va avancer. Donc, en conclusion, je crois que ce texte, l'apôtre Paul, mais Dieu, au travers de ce texte, eh bien, nous encourage, nous appelle aujourd'hui à fixer nos yeux sur le but, sur l'objectif. C'est quoi ton but dans ta vie? C'est quoi votre objectif? Avoir des bonnes prochaines vacances, une belle maison, un bon job, c'est tous des buts très louables. Mais est-ce qu'il y a un but qui va conditionner aussi les autres objectifs? Courir avec endurance. Ce n'est pas toujours facile de courir lorsque les vents sont contraires, de continuer d'avancer quand il y a la maladie, quand il y a de l'adversité, quand il y a peut-être de la persécution aussi. En Suisse, on n'en vit pas tellement de la persécution par rapport à beaucoup des millions de chrétiens de par ce monde. Est-ce que notre but aussi, et Dieu nous appelle justement à fixer nos yeux vers le but, à laisser le passé derrière nous, à courir avec endurance et à connaître toujours plus Jésus-Christ? Est-ce que je cherche aussi à connaître toujours plus Jésus? Paul, en tout cas, avait cette volonté-là. Et je me dis, si l'apôtre Paul, qui avait quand même une foi XXL, avait cet objectif, je suis aussi appelé à marcher selon cet exemple. Dans une course de relais aussi, si un coureur s'arrête et refuse le témoin, toute l'équipe va perdre. Et Dieu a inventé l'Église. L'Église aussi. Et on est appelé aussi à courir dans le but que les autres remportent la victoire, arrivent au bout. Et celui qui saisit le témoin et court de toutes ses forces mène aussi l'équipe à la victoire. Est-ce qu'on veut aussi se passer dans cette course de relais le témoin? Cette transmission, cette générosité de la transmission aussi, et de courir dans le but que l'autre gagne aussi, que l'autre avance, que l'autre gagne le prix, même s'il court moins vite, même s'il a peut-être des difficultés, même s'il traîne encore certaines casseroles. Est-ce que je vais aussi lui tendre le témoin pour qu'il avance et pour qu'avec lui, je remporte le prix? Alors aujourd'hui, Dieu tend le témoin de son appel dans une course. Dans une course, il y a des zones de transmission aussi. Et la zone de transmission, eh bien, c'est maintenant. C'est maintenant aussi où on se transmet ce témoin. On se transmet cet appel, on se transmet cette bonne nouvelle. Est-ce qu'on veut saisir cette grâce, cet appel? Est-ce qu'on a envie de courir? Est-ce qu'on veut avancer? Alors, à chacun de répondre, pas ici à haute voix, mais dans votre cœur, est-ce que je veux courir pour remporter le prix? Et si oui, à la lumière de ce texte, qu'est-ce que je peux peut-être recadrer dans ma vie, dans mes objectifs? Est-ce que je veux connaître Christ plus profondément? Vous savez, c'est difficile de se dire j'aimerais arriver à tel objectif sans s'en donner les moyens. Moi, j'ai certains objectifs où je me dis, j'aime beaucoup la montagne, j'aime beaucoup certains trucs, puis je me dis, j'aimerais bien refaire cette course que j'ai faite il y a longtemps en montagne. Et puis ma femme me rappelle à l'ordre en me disant, mais elle n'aime pas que je parle d'elle. Mais elle me dit, il faudrait peut-être déjà commencer par t'entraîner avant. C'est pas sympa quand même, hein? C'est réaliste, hein? Voilà. Mais est-ce qu'on est prêt aussi, chacune et chacun, à laisser notre passé derrière nous et attendre de l'avant? Alors peut-être certains, c'est pas juste facile comme ça d'un claquement de doigts, mais dire maintenant ce passé, peut-être il y a 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, eh bien, je veux le laisser derrière. C'est peut-être pas possible, humainement parlant, mais dire maintenant, je vais tout faire, tout mettre en place pour que ce passé soit vraiment du passé et dépassé. Parfois, il y a besoin aussi d'être entouré pendant un temps, de demander la prière pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des ministères dans l'Église, qu'il y a aussi des dons, des talents, et qu'on peut aussi s'adresser à mamie, à moi, à d'autres, pour aussi recevoir la prière, pour dire « mais ça, ça me pourrit la vie depuis tant d'années ». Vous savez, j'ai eu des fois en entretien, on a eu des fois des gens en entretien où ça m'a aussi servi, des gens, une personne, elle devait avoir plus de 70 ans, et sans... c'est elle avait plus de 70 ans, mais... Il y a un truc qui est ressorti, qu'elle n'avait jamais partagé à quelqu'un d'autre, mais qu'elle a gardé sur son cœur toute sa vie, et qui n'était pas connue du tout de personne. Elle a vécu un avortement quand elle était jeune, et toute sa vie, elle a été culpabilisée par ça. C'était inconnu de tous les frères et sœurs, inconnu même de la plupart des membres de la famille. Il n'y a quasiment personne qui le savait, personne qui lui disait « Bouh, c'est mal ce que tu as fait. » Mais ce truc-là, il a pourri 50 ans ou plus de sa vie. 50 ans d'accusation. Et on a mis en place aussi, on a suivi avec bienveillance aussi cette personne pour qu'elle puisse déposer, pour qu'elle puisse trouver la paix par rapport à ça. Et pour qu'elle puisse laisser ça derrière et poursuivre le restant de ses jours vers le but sans être sous le joug de la culpabilité. Et il y en a eu d'autres, ce style-là aussi, des expériences. Et je me suis dit, mais combien d'années de gâchées avec des... Ça, c'est un exemple, hein. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres que je pourrais vous donner comme exemple de gens qui ont eu 50 ans, voire plus d'années de gâchées de leur vie. Ils n'ont jamais vraiment pu avancer avec Dieu, toujours sous ce climat de culpabilité. Et ça induit aussi même, ça pourrit certaines relations avec d'autres personnes, avec des membres de leur famille, parce qu'il y a quelque chose de leur passé qu'ils ont gardé secret, et tout à coup, ils ont pu le déposer dans un endroit sécurisé. Dans un endroit sécurisé où ça ne va pas ressortir ailleurs. Là, si je vous partage cette expérience, il n'y a aucun risque que vous trouviez de qui il s'agit. C'est de toute façon pas ici. Et il n'y a aucun risque que cette personne soit, une fois qu'on puisse dire que c'était elle ou pas elle. Alors, est-ce qu'on veut laisser notre passé derrière et tendre vers ce qui est devant? Peut-être ça passe par le pardon de quelqu'un qui nous a vraiment fait un coup tordu. L'apôtre Paul va dire dans un texte aussi, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, je paraphrase, hein, là on se dit yes. Il va, Si tu as une raison de te plaindre d'un autre, tu lui donnes un coup. Non. Trouvez ce texte, vous googlisez. Ça dit pardonnez-lui. Tu dis, mais attends, si j'ai une raison de me plaindre de lui, je vais lui faire la peau. Non, pas la peau, mais. Je vais quand même lui dire les quatre vérités. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, faites-vous grâce, pardonnez-lui. Non, mais ça va, Paul ? T'es passé. Et ça aussi, peut-être déposer des coups tordus. Pouvoir dire maintenant, je choisis que ça impacte plus ma vie. Il y a certainement mille et une bonnes raisons qu'on aurait de dire que c'est mal ce qu'on a subi. Mais peut-être nous aussi, on a fait subir des choses mauvaises à des gens. Et dire, ben, peut-être c'est le moment de demander pardon. De demander pardon à telle ou telle personne. Alors, voilà ce que j'avais à cœur de dire. Peut-être, je vais mettre mal à l'aise personne, mais chacun peut se retrouver dans quelque chose. Si quelqu'un dit, ben oui, je veux aujourd'hui fixer mes yeux vers le but, je veux laisser le passé derrière moi, je veux courir avec endurance et je veux connaître toujours plus Christ. Si vraiment ça résonne dans votre cœur pour quelque chose de précis, juste comme un geste, voilà, se lever à votre place, et je vais terminer par la prière, je vais demander à personne de s'avancer, mais juste, c'est entre vous et Dieu. Dire, ben, y a tel sujet, j'ai envie de peut-être recentrer le focus vers Jésus, je veux fixer les yeux vers le but. Ou alors peut-être certains, je veux laisser le passé derrière moi. Peut-être ces exemples que je vous ai donnés résonnent aussi dans votre cœur. Dire, c'est peut-être le moment maintenant de prendre des mesures pour que le passé appartienne au passé. Ou alors je veux courir avec endurance. Seigneur, donne-moi la force de courir jusqu'à l'arrivée. Où certains disent, mais je me rends compte que je ne connais pas grand-chose de Jésus. Je me rends compte que j'ai encore tellement à apprendre de son amour, de sa grâce. Eh bien, aujourd'hui, je prends la résolution de le connaître toujours plus. Alors si, pour un de ces sujets, eh bien, tu te reconnais, mon frère, ma sœur, je vais terminer comme ça par la prière. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette Église qui est là, devant toi, Seigneur, on est tous là devant toi, on est tous, Seigneur, des bénéficiaires de ta grâce, de ton amour, de ta patience. Seigneur, je te confie en particulier celles et ceux qui, pour une raison qui leur appartient, se sont levés, Seigneur, ce matin. Seigneur, ils veulent, Seigneur, ton aide, ta grâce. C'est entre toi et eux, Papa Céleste. Oh, peut-être certains auront besoin d'aide. Peut-être certains auront besoin d'une oreille de compassion, Seigneur, quelqu'un qui prie avec eux. Peut-être d'autres, c'est juste entre toi et eux, Seigneur. Et Seigneur, c'est toi qui sondes les cœurs. Je te prie pour chacune et chacun, que ta grâce soit déposée sur nos vies à tous, sur la vie de mes frères et sœurs. Et qu'ils puissent avancer, Seigneur, selon ce pourquoi aussi ils se sont levés. Je te prie aussi pour cette Église, Seigneur, qui a aussi un passé. Un passé, un passif. Et Seigneur, que aussi en tant qu'Église, on puisse aller de l'avant. Et pas regarder en arrière. Faire grâce là où il y a besoin de faire grâce. Pardonner là où il y a besoin de pardonner. Demander pardon là où il y a besoin de demander pardon. Mais surtout, choisir d'aller de l'avant. Et pas regarder au passé. Merci Seigneur pour ta grâce sur le passé. Merci pour ta guérison pour le passé. Et merci pour la victoire qui nous attend vers le but. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.